Espace Consommateur. Espace Consommateur, la tribune consacrée à la protection des intérêts des consommateurs. Espace Consommateur, c'est informer et sensibiliser les consommateurs sur les droits et devoirs, sur l'actualité des marchés, mais surtout sur les actions du gouvernement au profit des consommateurs. Espace Consommateur, c'est mon espace, c'est ton espace et c'est notre affaire à tous. Réalisation, présentation, Jean-Claude Mabéa.
La fermeture saisonnière des pêches 2024 a été lancée le 1er juillet dernier à Adiaké par le ministre des Ressources animales et halieutiques. Le programme des filets socioproductifs qui couvre 3671 villages et 108 communes et chefs-lieux de département sur l'ensemble des 31 régions de la Côte d'Ivoire, de 2017 à 2024, ce sont 402 000 ménages qui ont bénéficié des transferts monétaires d'un montant de 120,5 milliards de francs CFA. Attestation des droits d'usage coutumier. Le document est délivré sur les lotissements nouveaux approuvés depuis 2023 selon le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Les détenteurs des anciennes attestations villageoises sont donc invités à engager leur demande d'ACD. Comment nettoyer efficacement votre cuisine? Nous vous proposerons quelques astuces dans la dernière partie de ce magazine. Merci de suivre Espace Consommateur sur Radio de la Paix.
Espace Consommateur, c'est mon espace, c'est ton espace et c'est notre affaire à tous.
Droits et devoirs du consommateur.
Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timoko Touré, a procédé le lundi 1er juillet 2024 à la fermeture officielle des pêches au titre de l'année 2024 à Adiaké. Il a saisi cette occasion pour rappeler l'objectif de cette seconde fermeture saisonnière des pêches. Sidi Timoko Touré.
Ici, il s'agit de toute la ressource halieutique qui est concernée. Les eaux sont préservées. Aucune pêche de quelque nature sur les eaux. Que ce soit pour le crabe, que ce soit pour les langoustes, tout ça, c'est interdit pendant la période. Et c'est de bon aloi parce que c'est la bonne période en réalité où ces différentes espèces se reproduisent. Et d'ailleurs, nous avons assisté depuis l'année dernière à une diversification des prises parce qu'il y avait des espèces qui avaient disparu, qui commençaient à réapparaître parce que justement, on leur a laissé le temps de se reproduire. Donc c'est vraiment tout bénéfice pour les populations par rapport à leurs ressources et par rapport aux emplois.
Sur le ravitaillement des marchés en produits halieutiques en cette période, il a tenu à rassurer les consommateurs.
Des dispositions ont été prises avec les importateurs de poissons, mais aussi avec les aquaculteurs, c'est-à-dire les éleveurs de poissons. Le total des disponibilités à ce jour est estimé à 245 000 tonnes de poissons, dont 200 000 de disponibilités physiques et 45 000 tonnes de stock en cours.
Interrogée sur cette décision du gouvernement, la première vice-présidente de la coopérative des marailleuses et transformatrices des produits halieutiques du débarcadère de Lokogro dans la commune d'Atekoubé, Abuo Elisabeth, et la présidente des marailleuses d'Abobo-Doumé, Sansan Naomi, nous ont exprimé leur inquiétude.
Ça fait un mois que les pêcheurs ghanéens qui nous donnent poissons sont partis même. On n'a pas encore eu poisson, on n'a pas eu assez de poissons. Maintenant, on vient de faire la clôture. Après là, où on est là même, là, dans notre frigo, il n'y a rien comme poisson. Donc on est là, on attend. On suppose qu'après l'ouverture, là, que tout marche bien pour qu'on ait le poisson pour vendre. Parce qu'ils ont dit que, comme on ne ferme pas là, c'est à cause de ça, les poissons là sont petits et puis on les attrape et puis ça fait que ça manque du poisson. Dans un mois là, on prie Dieu pour que ça puisse nous arranger, nous tous, pour qu'on ait le poisson pour manger.
Mais un mois, qu'est-ce que vous allez faire?
Mais on va faire comment? C'est un truc qui est arrivé. On est obligé de le faire pour qu'après ça, on ait du poisson pour vendre. Parce que si on n'a pas fait ça là, les poissons là sont petits. Tu as attrapé, mais là, qu'est-ce que tu as fait avec? Et puis ça appauvrit l'eau. Donc il faut se sacrifier pour quelque chose pour avancer.
Un mois avant que la mesure ne rentre en vigueur aujourd'hui, vous étiez informé?
On était informé depuis l'année passée. L'année passée, on a fait, on a vu un peu, mais c'était pas trop. Donc cette année, ils sont en train de faire là. On attend, c'est 4 semaines. Nous. On attend les 4 semaines là. Si ça passe net, on va voir ce que ça nous produit. Puis on voit que c'est ça qui est bon. On continue. Si c'est pas ça qui est bon, ensemble, on va essayer une autre idée encore. S'il y a poisson, les clients vont venir. Mais on n'a pas poisson.
Aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas de poisson. Mais où on peut avoir du poisson et comment on peut s'approvisionner pour manger?
On va prendre les poissons congelés là, les poissons du carton là. Mais ce qui est là, comme ils savent qu'il n'y a plus poisson de la lagune qui va sortir là, donc ils seront obligés d'augmenter le prix de poisson. Tu veux ou tu veux pas, ou tu vas prendre. Donc c'est ce qui va se passer.
Vraiment, l'année passée, c'était pareil. Cette année aussi, c'est pareil. Parce qu'on a grogné jusqu'à on ne peut rien contre l'État. On n'a ni de force, rien. L'année passée, même, on a cru que vraiment, quand ça allait se passer comme ça, au moins, nous, les vendeuses, on allait nous appeler, nous dire quelque chose concernant notre commerce, comment vous allez faire, puis nous donner quelque chose, mais on n'a pas reçu de quoi. Donc, on est toujours dedans comme ça. Cette année encore, c'est venu. On ne peut rien contre l'État. Nous, on a quelle force? On ne peut pas. On est obligé de vivre la situation telle que ça est. Donc, c'est ça, c'est dans ça qu'on est actuellement.
Est-ce que vous avez pris des dispositions pour pouvoir gérer cette période de un mois là, de fermeture?
Bon, cette période d'un mois là, c'est d'aller s'asseoir à la maison parce que je ne vois pas ce qu'on peut faire. L'année passée, moi-même, je suis partie prendre les poissons des cartons pour venir vendre, mais ça ne m'a pas arrangé parce que les cartons qu'on payait à 20 000, c'est venu jusqu'à 25 000, jusqu'à 30 000. J'ai fait même des pertes. Donc, j'ai décidé cette année-là d'aller me reposer. C'est encore mieux qu'aller prendre des dettes encore pour venir accumuler encore mes problèmes. Donc, c'est cette décision-là, moi, j'ai pris.
Ce repos biologique aura donc un impact sur l'économie des autres acteurs du secteur des pêches. C'est le cas de Dalo Begré Hippolyte. Il est en charge de la découpe du poisson au débarcadère de Lokodro et Sodiegui Marc Mondésir qui s'occupe du chargement des poissons.
Ça diminue d'abord même mon économie parce que dans les congés, nous ne sommes pas accompagnés. Voilà, c'est au moins si on était accompagnés, là, il n'y a pas de problème, mais nous ne sommes pas accompagnés. Bon, quand tu ne travailles pas et que à chaque fois tu retires l'argent, en tout cas, je vois que vraiment ça, là, ce n'est pas trop aussi important.
C'est la deuxième fois. La première fois, comment vous êtes arrangé?
L'année passée, là, ça a été vraiment une surprise. C'est-à-dire, on ne s'était pas bien apprêté. Mais cette année-là, on a su qu'on devrait fermer. Donc, au fil et à mesure, on travaillait nous-mêmes personnellement. C'est-à-dire, on a évacué au moins quelque chose quelque part. Là, le jour de la fermeture arrive, bon, on pouvait mettre la main où on a évacué un peu. Là pour se défendre en attendant que le mois finisse.
Est-ce que c'est important de fermer? Quel est l'avantage?
Bon, c'est aussi important de fermer parce que après plusieurs analyses, ils ont dit que non, que c'est dans ce mois-là que le poisson se reproduit. Donc, je vois aussi que c'est aussi important aussi.
On est là. Après, j'ai fermé là, on ne peut pas travailler pour avoir l'argent. Bon, d'une part, c'est bon, d'une part aussi, c'est pas bon. La part où c'est bon là, c'est que le poisson se reproduit. Quand on ouvre l'eau, les poissons seront encore plus beaucoup. Actuellement, ils ont fermé. Là. Ça ne nous arrive pas parce que on n'a pas l'argent. Après, on ne travaille pas.
Des mesures pour minimiser l'impact sur les pêcheurs, les armateurs et les consommateurs ont été prises par le gouvernement, selon le ministre Sidi Timoko Touré.
Il a été prévu la mise en place d'un fonds revolving qui verra le jour bientôt. Et sans oublier, bien sûr, l'exonération de frais d'escale et de séjour pour les navires de pêche qui accostent sur nos différents ports.
Le directeur exécutif de l'interprofession pêche, Abderrahmane Koulibaly, et le sous-chef d'état-major de la Marine nationale, le contre-amiral Amara Kone, ont pris l'engagement d'accompagner le ministère des Ressources animales et halieutiques dans la mise en œuvre de cette mesure de fermeture saisonnière des pêches.
Nous saluons déjà cette mesure qui a fait ses preuves lors de la première édition et c'est pour cela qu'elle s'étend aux autres eaux locales et continentales afin de pouvoir garantir l'autosuffisance en termes de poissons. Les acteurs dans l'ensemble eux-mêmes adhèrent à cette idée-là.
Avec les inspecteurs de la pêche, nous allons en mer et nous faisons des arraisonnements pour des gens, pour des embarcations ou des bateaux, des chalutiers que nous pouvons trouver en activité de pêche alors que c'est interdit. Nous nous tenons prêts à soutenir, à accompagner le ministre dans cette noble mission-là.
A noter que la pêche artisanale sera fermée du 1er au 31 juillet, la pêche semi-industrielle et industrielle du 1er juillet au 31 août et les plans d'eau lagunaires et continentaux comprenant les lagunes Abi, Grand Laou et les lacs de Kossou et de Buyo seront également fermés du 1er septembre au 31 octobre.
Espace consommateur, c'est mon espace, c'est ton espace et c'est notre affaire à tous.
Info consommateur.
Entrée en vigueur le 1er juillet 2024, l'attestation des droits d'usage coutumier venue en remplacement de l'attestation villageoise ne remet pas en cause les droits des chefs coutumiers. Ils continueront de signer les attestations comme c'était le cas auparavant. C'est la clarification faite par le directeur du domaine urbain du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Abdoulaye Diallo, récemment au cours du rendez-vous gouvernemental dénommé « Tout savoir sur ».
L'attestation des droits d'usage vient en remplacement document de l'attestation villageoise. Ce document permet de trouver un lien de droit entre un détenteur de droits coutumiers et un terrain issu d'un lotissement approuvé. Cette attestation permet à nos concitoyens de reconnaître un modèle unique d'attestation lorsqu'ils veulent acquérir des parcelles. L'institution de cette attestation va permettre d'éviter les multiples attributions sur les parcelles parce que l'administration prend soin de faire un seul et unique imprimé sur un terrain et le met à la disposition des villageois. Sur l'ADU en question, il y a un QR code qui est là. Et ce QR code permet à l'usager d'être sûr des informations qui sont reportées sur l'attestation de droit d'usage. Ces attestations sont toujours valables si le terrain existe vraiment et si c'est dans un lotissement approuvé. Seulement, ce qu'on a dit, c'est qu'on ne veut pas qu'il coexiste deux types d'attestations dans le pays. Donc, on donne un délai à ceux qui ont les anciennes attestations de faire leur demande d'ACD.
Il s'est par la suite exprimé sur le mécontentement des chefs coutumiers face à cette nouvelle attestation avant de prodiguer des conseils aux usagers en ces termes. Abdoulaye Diallo.
Cette attestation ne vient pas leur enlever un quelconque pouvoir. Ces documents seront bel et bien signés par eux.
Si le vendeur n'a pas ce papier, on ne vous conseille pas d'acheter. Parce que ce n'est pas sûr que ce terrain-là existe vraiment, que ce terrain correspond à quelque chose qui n'appartient pas à l'État.
Les propriétaires terriens possédant l'ancienne attestation ont jusqu'à fin décembre 2024 pour introduire leur demande d'ACD. L'attestation de droit d'usage coutumier, ADU, est signée par le chef du village, le président du comité villageois de gestion foncière et le lotisseur. Elle est délivrée à chacun des bénéficiaires de l'eau de compensation. On s'intéresse à la lutte contre la pauvreté. Un atelier de restitution des résultats des études d'évaluation d'impact des transferts monétaires et des effets des mesures d'inclusion économique du programme des filets sociaux productifs s'est tenu le 1er juillet 2024 à Abidjan-Cocody en présence de la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Sur l'impact de ce programme spécial du gouvernement sur les populations bénéficiaires, écoutons les explications de son coordonnateur, Kone Kipeya.
C'est pour nous un impératif de redevabilité par rapport à la communauté, à l'opinion nationale. Et sous la houlette donc de Madame la ministre Miss Belmonte Dogo, ministre de la Solidarité et la lutte contre la pauvreté, nous avons donc conduit effectivement un bilan à l'attention des parlementaires, notamment des membres de l'Assemblée nationale, du Sénat, la Convention de la société civile, la Chambre des rois et chefs traditionnels. L'idée était vraiment de souscrire à un impératif de redevabilité pour dire où est-ce que nous en sommes et quelles sont les perspectives. Nous sommes sur un volume de 130 milliards de ressources qui ont été redistribuées sur la période 2017-2023 à 402 000 ménages sur toute l'étendue du territoire national. Toutes les 31 régions sont concernées. 108 communes, chefs-lieux de département sont également couvertes et nous avons donc un volume de 3 671 villages qui sont également touchés. Toutes les sous-préfectures ont au moins un village. Et comme vous le savez, le programme de transfert monétaire, c'est une allocation de 36 000 francs CFA tous les 3 mois sur une période de 3 ans. Et donc, ce sont autant de ménages, autant de régions, autant de communes et de villages qui ont donc bénéficié de ce programme social du gouvernement. Au-delà des transferts monétaires, il y a la batterie des mesures d'accompagnement que nous déployons. Parce qu'on ne fait pas que donner de l'argent, parce que 36 000 francs, c'est un investissement. Et pour garantir le retour sur investissement dans le capital humain et productif, on a également des agents communautaires en appui au personnel fonctionnaire qui ont déployé un paquet de mesures pour la formation en compétences de vie, gestion de budget familial, l'initiation des activités génératrices de revenus et la mise en association.
Et quel est aujourd'hui l'impact de ce programme sur les populations, les ménages particulièrement?
Oui, nous avons justement au cours de cette session présenté les résultats d'évaluation d'impact des transferts monétaires. Ces évaluations ont été réalisées par l'ENSEA, l'École nationale des statistiques et d'économie appliquée. Ils en ont fait la restitution. Ils ont également fait la restitution d'une étude qu'ils ont faite sur les effets des mesures d'inclusion économique dont nous parlions tout à l'heure. Et il est globalement ressorti que sur les transferts monétaires, les études relèvent qu'il y a une grande majorité des populations qui affirment avoir changé de statut par rapport à la pauvreté. Et donc, c'est plus de 78 points de pourcentage qu'on a pu enregistrer en termes donc de mobilité des ménages, de leur statut initial d'extrêmement pauvres vers une situation qui les a franchis au-delà du seuil de pauvreté. Donc plus de 87% des ménages ont aussi déclaré avoir connu substantiellement une amélioration de leurs conditions de vie, selon ces études de l'INSEE. Il en est de même pour les mesures d'inclusion économique, où on a relevé le potentiel des associations de valorisation des parents communautaires en termes de consolidation de la cohésion sociale. Ce sont des bénéficiaires qui étaient dans des communautés, mais qui ne se connaissaient pas forcément. Par le biais donc de l'encadrement des agents qui sont commis à cela, ils se retrouvent toutes les semaines. Ils ont en commun un fonds de solidarité. Ils apprennent à se soutenir. Tout cela permet donc de renforcer également la cohésion sociale et leur capacité même d'accompagner au sein de leur communauté quelques réalisations sociales.
Espace consommateur, c'est mon espace, c'est ton espace et c'est notre affaire à tous.
Bon à savoir.
Le nettoyage de la cuisine est une tâche longue et complexe. Voici quelques informations avant d'attaquer le ménage. Pour qu'elle reste propre jour après jour, il est important de nettoyer votre cuisine régulièrement. Mais à quelle fréquence devriez-vous le faire? Le nettoyage global de la cuisine doit idéalement être effectué une à deux fois par semaine. Il s'agit de nettoyer les zones utilisées quotidiennement. Le plan de travail, l'évier, la table et les chaises, les portes et poignées, les boutons et surfaces tactiles. Certaines tâches doivent être réalisées plus souvent. Pour rester impeccable, votre surface de cuisson est à nettoyer après chaque utilisation. Certains liquides et aliments risquent aussi de détacher votre évier si vous ne le nettoyez pas immédiatement. Il s'agit notamment du café, du thé, du jus de viande et d'aliments grillés. D'autres éléments nécessitent un nettoyage plus ponctuel. Si les aliments sont bien emballés ou dans des boîtes de rangement, nettoyer votre réfrigérateur chaque mois sera amplement suffisant. Si ce n'est pas le cas, ce sera plutôt tous les 15 jours. Pour éviter les mauvaises odeurs, la poubelle se nettoie de préférence tous les mois. Mais si vous voulez que votre cuisine soit toujours parfaitement propre, mieux vaut nettoyer la saleté dès son apparition. Quels produits utiliser pour nettoyer votre cuisine? Pour nettoyer efficacement votre cuisine, vous pouvez parfaitement utiliser des produits du quotidien ou des ingrédients naturels. Du savon ou du liquide vaisselle. Il nettoie toutes les surfaces avec efficacité et douceur. Grâce à leur pH neutre, ils peuvent être utilisés dans toute la maison et tous les jours. Du vinaigre blanc ou du citron. Leur acidité permet de détartrer et de dégraisser, surtout s'ils sont mélangés à de l'eau chaude. Ils sont si actifs que le nettoyage de l'inox ou de joint devra être rapide et suivi d'un rinçage. À éviter absolument sur du marbre. Du bicarbonate de soude. Il dégraisse, enlève le brûlé de la vitre du four, déjaunit l'évier et élimine les mauvaises odeurs. Associé à du vinaigre blanc, il peut même désincruster, voire déboucher le siphon de votre évier. Du savon noir, il nettoie, dégraisse, détache et désinfecte toutes les matières. Il est particulièrement conseillé pour nettoyer le bois et idéal sur tous les types de sol. Pour plus de simplicité, préférez le choisir liquide. En cas de moisissure, mieux vaut utiliser un produit plus puissant, l'eau de Javel. Elle devra être diluée dans de l'eau et utilisée avec précaution. Respect des dosages, port d'un masque, de gants, de vêtements blancs ou usagés, aération de la pièce, rinçage, etc. Mais aucune moisissure ne lui résistera. C'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Espace Consommateur sur Radio de la Paix.
Espace consommateur. Espace consommateur, la tribune consacrée à la protection des intérêts des consommateurs. Espace consommateur, c'est informer et sensibiliser les consommateurs sur les droits et devoirs, sur l'actualité des marchés, mais surtout sur les actions du gouvernement au profit des consommateurs. Espace consommateur, c'est mon espace, c'est ton espace et c'est notre affaire à tous. Réalisation, présentation, Jean-Claude Mabéa.